Bonsoir à tout le monde. On va procéder à notre demi-heure citoyenne et écouter les questions que vous avez peut-être à nous poser. Merci. Je rappelle, c'est plus la demi-heure. Hein. Quand on n'a plus de questions, nous commencerons le conseil municipal.
Bonjour, Jean-Louis Brault pour l'enregistrement. Deux points très différents. Le premier, c'est un grand bravo pour les promoteurs de la décoration lumineuse du village. Cette année, c'est extraordinaire. Et tous les gens à qui j'en ai parlé trouvent ça superbe. C'est vraiment très beau. Je voulais le dire au conseil municipal.
Merci à vous.
Le deuxième point qui est un peu moins sympathique, en tout cas pour moi, quand je suis arrivé, comme tous les ans, entre Noël et le jour de l'an, j'ai trouvé notre commandé. Alors, je me suis précipité à la poste. Quand j'ai vu de quoi il s'agissait, c'était les listes électorales, je suis allé à la mairie, en face. Et on était le 28 décembre, un truc de genre. Et j'étais reçu par une dame très gentille qui m'a dit « Avez-vous tel papier, tel papier, tel papier ?» Je ne les ai pas là, madame. Ils sont chez moi à Paris. Ah, bah, pourtant, il me les faut avant le 31 décembre. Ça me paraît impossible. Et j'ai compris que mon cas était définitivement aggravé par le fait que le chalet où j'habite est en SCI. Bon, ça c'est. Donc voilà, je vais être radié des listes électorales de Megève. Ça ne me fait aucun plaisir. Voilà. Alors, il paraît que c'est dû au monsieur qui est là-bas, là, qui est champion de scooter.
Mais, en fait, bon. Nous avons été obligés de. Oui, je pense que. La circulaire. C'est vrai que nous avons été obligés de remanier nos listes électorales suite à la création de la. Non, mais je m'en doute bien. À la demande de la création d'un quatrième bureau de vote et qu'il a fallu remanier toutes ces listes avec aujourd'hui des. Une circulaire qui demandait certaines conditions pour être inscrit sur les listes électorales. Voilà.
Madame le maire, est-ce que je peux vous poser une question? Monsieur, vous étiez inscrit précédemment sur les listes électorales, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, en fait, c'est pas quelqu'un qui demande à être électeur, c'est quelqu'un qui peut prouver qu'il a les conditions d'électeur. Non? Enfin, je me pose cette question parce qu'il était électeur, il a toutes les conditions requises. Et là, aujourd'hui, du fait qu'il est arrivé tard et qu'il a eu son lettre commandée assez tard, il n'a pas pu rassembler les documents qu'il a chez lui.
C'est par rapport au fait que vous êtes en SCI, c'est ça? Non, SCI, je crois que c'est pas possible.
Sauf à déclarer son lieu de résidence non permanent, résidence principale. C'est que cela.
Oui.
Pourquoi il faut que la SCI soit en nom propre? C'est pas possible. Il faut que ce soit en son nom propre. Même si c'est en résidence principale, c'est l'erreur.
Non, je pense que oui, il faut que ce soit en nom propre.
Hein. Ça ne peut pas être le cas d'une SCI. Pareil.
C'est pas admissible. Il faut payer une taxe en son nom propre sur la commune.
Monsieur Orsay.
Je suis l'ancien président du judo club de Megève. J'ai appris aujourd'hui accidentellement que vous refaisiez une salle de judo dans le complexe, là-bas, le blocos. Bon, je pense que la salle de judo actuelle est conforme, pratique, parce qu'elle est près des écoles. Et je pense que c'est une dépense peut-être exagérée que de transférer de nouveau cette salle.
Bah, écoutez, oui,
on parle des économies.
Ça a été prévu dans le budget, enfin dans le projet initial, et c'est une coïncidence parce que nous avons travaillé aujourd'hui sur le projet du Palais des Sports et j'ai découvert qu'il y avait cette salle et j'ai fait la même réflexion que vous.
C'est une dépense inutile, mais enfin sortie de là. Merci.
Oui, je peux répondre. Enfin, si ça ne dérange pas.
Oui, oui.
Ou donner des explications. Non, ce n'était pas prévu dans le budget initial, dans le prévisionnel initial du projet. En fait, c'est que quand ils ont dessiné les plans d'exécution un peu plus précis, les maîtres d'œuvre, ils se sont aperçus qu'au dernier étage, au-dessus de la salle de musculation, ils pouvaient récupérer une surface de plancher, puisqu'ils ont réduit la hauteur sous plafond par rapport à tout ce qu'ils devaient mettre en termes d'évacuation, d'humidité, de toutes les choses qui étaient nécessaires pour la génération du flux. Et donc, ça a été récupéré une hauteur sous plafond, et là, du coup, il y avait une surface de plancher qui était disponible. Donc, ça avait été fléché salle de judo, mais c'est ce que je disais à M. Orsay, ça peut être une salle qui peut être... qui peut servir à quelque chose, pas forcément à ça. Hein.
Je reste tout à fait... Enfin, moi, j'ai été étonnée qu'elle ait été ciblée pour le judo. Donc, de toute façon, je crois qu'il ne faut pas qu'on se fasse de soucis avec cette salle. On a beaucoup de personnes qui nous demandent des salles. Et donc, elle aura sûrement des occupants, même si ce n'est pas des occupants du club de judo.
D'ailleurs, Madame le maire, ça serait intéressant, lors d'un prochain conseil, que vous fassiez un peu état au conseil municipal de l'évolution... et des grandes orientations qui ont été prises concernant le devenir du Palais des Sports, pour expliquer un peu plus en détail les modifications qui ont été apportées, ou alors les embellissements ou non, ce qui concerne ce chantier.
Cette chose qui sera faite lors du prochain conseil municipal dans le cadre du débat d'orientation budgétaire.
Je voudrais faire une remarque à propos de l'ascenseur du Palais des Sports. Ce n'est pas la première fois qu'il m'arrive de renseigner un couple avec une poussette qui s'engage sur l'escalier et de leur dire que l'ascenseur se trouve sous l'escalier. Et effectivement, lorsqu'on vient au Palais des Sports pour la première fois, il est mal indiqué. Voilà.
On va regarder la signalétique et on va remédier. Je pense qu'il y aura une signalétique qui sera renouvelée au moment de la restructuration, mais on peut y remédier rapidement avec, je pense, un panneau d'indication pour indiquer cet ascenseur. Effectivement, il est sous l'escalier, peut-être pas facile à voir quand on accède au Palais des Sports, surtout en arrivant du côté du village.
Micheline Carpano. J'ai à transmettre à Madame le maire des remerciements de la part du président des ambassadeurs, de Monsieur Nali, qui remercie de soutenir l'association des ambassadeurs. Et nous avons inauguré lundi un petit mazot au sommet des remontées mécaniques de Rochebrune qui va permettre d'être un point pour les piétons, les skieurs. Ça va être un point d'information qui est quand même plus confortable que d'être sous la neige certains jours à déplier les cartes. Donc nous voulions remercier les remontées mécaniques de la SEM, notamment Monsieur Brouchou, d'avoir accepté de participer à l'élaboration du mazo. Nous remercions également les sponsors sans lesquels on n'aurait pas pu le réaliser. Et enfin, nous remercions les services techniques de la ville, de la commune, qui ont effectué un gros travail de mise en place. Parce que sans la neige, c'était un peu dans le vide, c'était pas évident, et ils ont vraiment très très bien travaillé. Donc l'association des ambassadeurs vous remercie d'avoir fait ce mazo sur les remontées mécaniques.
Ben merci, je crois que c'était quelque chose qui était très attendu, tant par les ambassadeurs pour être plus à l'abri par rapport à leur fonction au sommet des pistes par des jours où les intempéries sont là, et puis aussi plus convivial pour les clients qui arrivent au sommet de Rochebrune.
Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, c'est en tant que membre du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace que je remercie Madame le maire et tous les élus M. Gaillaguet, président de la Fédération, et M. Solaire, directeur technique national, félicitent la commune de Megève pour l'excellence des prestations fournies par les services techniques, le personnel du Palais des Sports, les bénévoles du Club des Sports, ainsi que les ambassadeurs présents du matin au soir pour aider et accueillir spectateurs et athlètes. La Fédération française des sports de glace souhaite continuer avec Megève un partenariat qui verra un jour, nous en sommes certains, l'organisation de compétitions internationales. Merci Madame le maire de la part de toute la Fédération.
Merci à vous et vous retransmettrez nos remerciements aussi à M. Gaillaguet qui a fait confiance à Megève pour organiser ces championnats de France élite de patinage. Et je crois qu'on peut dire que c'était une très belle manifestation. Et au regard de ce que vous venez d'évoquer, la preuve aussi que Megève reste quand même maître de, et organisatrice de belles manifestations en comptant surtout les effectifs de ses agents et des personnes qui gravitent pour la dynamique de Megève, les ambassadeurs, les services techniques et tout le personnel en place pour mettre en place de beaux événements.
J'aurais deux, trois informations en termes d'événements à vous. C'est plus des événements à caractère sportif, mais en raison du manque d'enneigement, le club des sports nous a fait savoir ce soir que, au service communication, que l'épreuve de l'écureuil d'or U16 de ski alpin qui devait se dérouler du 26 au 31 janvier est malheureusement annulée. Qu'également les Coupes d'Europe de ski de boss qui devaient avoir lieu du 2 au 5 février seront également annulées. Et que concernant la bûcheronne, épreuve de ski de fond, la décision sera prise lundi en fonction de la météo de ce week-end. Bon, enfin, on est assez pessimiste quand même. Donc c'est vraiment dommageable pour la station.
C'est vrai, je confirme que cette année, c'est un hiver qui est difficile pour tous les partenaires, que ce soit les partenaires des remontées mécaniques, des services techniques, les gens qui sont mis à contribution au jour le jour, et c'est difficile souvent de réagir et d'être, je dirais, opérationnel dans les jours qui suivent pour pouvoir répondre à ce manque de neige qui nous impacte cette saison d'hiver.
Comme nous sommes dans l'évocation d'événements, je vous signale que la Grande Odyssée donc, aura lieu sur Megève jeudi soir, mais sera relocalisée sur la Côte 2000, toujours pour des raisons d'enneigement, à partir de 18h45.
Et concernant le polo, qui fête cette année ses 20 ans, alors décision a été prise après beaucoup de discussions et d'études, de tenter de maintenir le polo sur le parking du Palais des Sports. Je sais que les services techniques via Laurent Soquet ont fait tous leurs efforts pour récupérer de la neige à droite et à gauche. Également, les remontées mécaniques ont tenté aussi de produire de la neige. Bon, mais maintenant, je pense qu'il y a que la météo qui dira si oui ou non on a fait le bon choix. Enfin, en ce qui nous concerne, on tente le tout pour le tout et on va essayer de faire au maximum avec les différents partenaires de la commune que cet événement ait lieu et qu'il se passe du mieux du monde. Parce qu'il est vrai qu'en janvier, il y a très peu d'événements de programmés, c'est un événement phare, les hôtels sont complets à pendant cet événement, c'est très difficile de trouver une chambre d'hôtel pour cet événement, il y a très peu d'annulations actuellement pendant cette semaine, alors que actuellement, pour la semaine qu'on est en train de vivre, il y a eu quand même déjà des annulations de recenser. Pour la semaine du polo, non, pas encore. Donc, on fera tout pour que l'événement ait lieu.
En complément d'information, donc pour le polo, il se déroulera du 22 au 25 janvier. Et la première événement qu'on pourra voir, c'est le jeudi 22 janvier à 17h30, défilé des équipes sur la place du village.
S'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons commencer cette séance du Conseil municipal. Donc ce soir, nous sommes réunis autour de cette table pour cette séance du Conseil municipal. Donc 24 conseillers municipaux sont présents. Nous avons des procurations. Samuel Mabou qui a donné procuration à Edith Allard. Annabelle Baccara qui a donné procuration à Nadia Arnaud-Prin. Et Jonathan Sepulveda qui a donné procuration à Lauriane Tissot. Donc je déclare cette séance du Conseil ouverte. Nous allons passer à l'état civil, les naissances. Par contre, j'ai oublié secrétaire de séance, s'il vous plaît. Qui se désigne? Catherine? Bon, il n'y a pas trop de... Merci Catherine Perret. Alors, état civil, les naissances. Le 15 décembre à Sallanches, Milly Boucher. Le 15 décembre à Contamine-sur-Avre, Maxence Chaudeur. Et le 22 décembre à Sallanches, Nathéo Delavay. Les mariages, le 27 décembre, Frédéric Michel et Marie-Julie Olivier. Le 10 janvier, Cyril Motte et Mélanie Perrault. Les décès, le 4 décembre à Lamure, Rachel Vacher. Le 21 décembre à Passy, Gérard Morand. Gérard Morand était notre maire, qui était maire honoraire de Megève et qui a présidé aux destinées de notre village de 1977 à 2008 et à qui, je pense, nous devons aujourd'hui le Megève que nous avons grâce à l'investissement de son travail consacré au bien-être de tout le monde. Le 24 décembre à Megève, Zahra Benjar, née Louali. Le 31 décembre à Megève, Anselma Rinaldini, née Patrignani. Le 1er janvier à Megève, Armand Allard habitait au chemin de la Die à Megève. Le 2 janvier à Megève, Gilbert Soquet-Claire au Plan-Lay. Le 2 janvier au Vésinet, Josette Kreft-Névissac. Et le 10 janvier à Megève, Yves Talercio. Donc tous nos voeux de bonheur aux heureux parents et aux jeunes mariés, et toutes nos condoléances aux familles affectées par la disparition d'un être cher. Et avant de passer à l'ordre du jour, je souhaite que nous respections une minute de silence en hommage aux victimes des attentats et à leurs familles. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, nos remerciements. Monsieur Jean-François Marie, directeur du chalet Saint-André, qui remercie les élus du conseil municipal pour la nouvelle signalétique mise en place aux abords de l'établissement, incitant les automobilistes à réduire leur vitesse. La sécurité des jeunes étant une de leurs priorités, il apprécie leur bienveillance à cet égard. Le père Didier Milani, qui remercie les élus du conseil municipal pour avoir accepté d'inclure une petite affiche dans le tableau des annonces municipales. La direction départementale de la cohésion sociale qui remercie sincèrement les élus du conseil municipal pour la mise à disposition des installations du palais des sports pour mener à bien les stages de MNS du 24 au 28 novembre 2014. Madame Mélanie Dedon qui remercie sincèrement les élus du conseil municipal pour le magnifique sapin de la place du village ainsi que le décor associé à la mairie. Monsieur Frédéric Muffa et Pascaline Freyère-Charapan, Megève Ancel, qui remercie les élus du conseil municipal pour leur soutien lors de leur préparation de la prochaine édition du Jumping International de Megève. Lille Métropole Natation et l'Union sportive de Saint-André Natation, qui remercie les élus du conseil municipal au nom des 29 participants au stage de natation pour les conditions offertes aux nageurs grâce à la qualité des prestations et surtout la qualité des infrastructures mises à leur disposition. La qualité de l'hébergement à la Fondation Morand-Allard, la restauration et surtout la gentillesse, le dévouement du personnel sous la responsabilité de Nathalie et Sabine qui sont en tout point remarquables. Il en va de même pour la piscine et son environnement, l'accueil du personnel, la propreté des plages vestiaires-douches, de la qualité de l'eau, tout cela étant la conséquence du travail remarquable fait par le personnel sous la responsabilité de Pascal. Monsieur Alain Delmas, Club des Sports de Megève, qui remercie sincèrement les élus du conseil municipal pour le vote de la subvention exceptionnelle concernant les travaux du bâtiment de Praille. Sans celle-ci, la situation financière du Club des Sports aurait été extrêmement critique. Madame Françoise Paris-Leclerc, qui remercie les élus du conseil municipal pour tout ce qui est fait pour les aînés, entre autres. Elle tient également à les féliciter pour la décoration de la station. Madame Nicole Zandotti, qui remercie les élus du conseil municipal pour l'invitation au déjeuner du 9 décembre dernier, plein de finesse et de saveur, ainsi que pour le travail de mémoire et de reconnaissance témoigné à nos parents et amis des Monts Argentés. Et monsieur et madame Maurice et Michel Grosset-Janin, madame et monsieur Baradel, docteur et madame Van Straten, madame et monsieur Papnus, madame et monsieur Jean-Marie Verdet, madame et monsieur Blassier, madame Simone Poujade, Richard et Yvette Fège, madame et monsieur Gilbert Orsay, Denise et René Vouilloz, madame René Joly-Potu et sa famille, madame Colette Joannas, madame Marie-Claire Grosset-Janin, qui remercie les élus du conseil municipal pour le colis de Noël. Et les familles Burnier et Soquet, qui remercient les élus du conseil municipal pour leur présence, leurs gestes et toutes les marques de soutien témoignées lors du départ de Simone. Alors, première délibération, secrétariat général, ordre du jour, modification. Je vous demande de bien vouloir rajouter une délibération à l'ordre du jour de ce conseil donc, et d'approuver cette délibération qui concerne les versements d'acompte sur subvention avant adoption du budget primitif 2015 donc, et l'approbation de conventions d'objectifs et d'autorisation de signature. Donc, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Approbation du compte rendu, deuxième délibération. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2014, qui vous a été transmis le 16 décembre, et vous êtes invité à approuver le compte rendu de ce conseil municipal du 9 décembre 2014. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 3, augmentation du capital de la SEMCODA et la modification de ses statuts en mars 2015. Madame Edith Allard.
Depuis 2007, la SEMCODA a mis en place plusieurs augmentations de capital qui lui ont permis de collecter 30 498 142 euros conformément aux dispositifs fixés par les assemblées générales extraordinaires de juin 2007 et juin 2011 et juin 2013. Bien que l'objectif initial de l'obtention de fonds propres ait été dépassé, les besoins en fonds propres sont toujours nécessaires pour les raisons suivantes. Maintien des coûts élevés en foncier et en construction, limitation des participations de l'État sous forme de subventions allouées au logement social, réduction des aides des collectivités locales, mise en place de plusieurs réglementations thermiques, environnementales, etc., qui augmentent les coûts de production, réhabilitation du parc pour réduire l'impact énergétique en particulier, volonté de maintenir une production locative importante pour répondre aux besoins des demandeurs de logement. Confortée par le fait qu'un certain nombre de communes actionnaires ou non, ainsi que le département de l'Ain, ont fait part ont fait part de leur intention de participer au capital de SEMCODA, le conseil d'administration a souhaité relancer une procédure d'augmentation de capital. Notre commune étant actionnaire de la SEMCODA, elle doit délibérer. Article 1524-1 du CGTC. Afin de mandater notre représentant en vue du vote de l'Assemblée générale extraordinaire de cette société qui sera amenée à statuer sur cette augmentation de capital. Le PDG de SEMCODA nous informe que notre commune aura un droit de souscription à hauteur de la quote-part du capital de la société qu'elle détient, mais qui ne sera pas dans l'obligation de participer à cette augmentation. Il nous précise également que l'Assemblée générale extraordinaire de SEMCODA devra se réunir le 12 mars prochain et décidera du principe d'une augmentation de capital global de 2 240 000 euros par l'émission d'un nombre maximum de 140 000 actions de 16 euros de valeur nominale chacune. On peut estimer les possibilités de participation au capital à hauteur de 30 millions de fonds propres, tenant compte de la valeur nominale et de la prime d'émission, et ce, pour les 3 années à venir. Le prix d'émission des actions sera alors fixé par le conseil d'administration lors de l'émission proprement dite, en fonction de la situation nette comptable de la société telle qu'elle apparaîtra sur le bilan du dernier exercice clos. À titre indicatif, le prix ressortirait à environ 218 euros sur la base des comptes de la société SEMCODA au 31 décembre 2012. Le conseil d'administration fera alors utilisation de cette autorisation de 2015 à 2017. Je rappelle l'intérêt que représente cette augmentation de capital pour la SEMCODA qui lui permettra d'injecter des fonds propres dans les opérations nouvelles sans altérer les valeurs des actions détenues par la commune, mais au contraire en confortant la situation financière de la société. Donc je rappelle également que conformément à la loi, c'est comme article L225-129-6, l'Assemblée générale extraordinaire devra également se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés. Toutefois, le conseil d'administration de SEMCODA suggérera aux actionnaires d'émettre un vote négatif à l'adoption de cette résolution du fait du peu d'intérêt que cela représente en l'absence de distribution de dividendes. Les salariés bénéficient chaque année de la distribution d'un intéressement lié à plusieurs facteurs, dont notamment les résultats et le niveau d'activité. Il est rappelé que les précédentes assemblées générales extraordinaires de 2007, 2010, 2011 et 2013 ont décidé en ce sens. Enfin, la prochaine AGE sera amenée également à modifier les statuts afin de les mettre en harmonie avec le Code du commerce et le Code général des collectivités territoriales. En effet, les statuts n'avaient pas été modifiés pour tenir compte de la modification relative aux conventions réglementées qui doivent être soumises à l'accord préalable du conseil d'administration pour les actionnaires disposant d'un droit de vote de 10% au lieu de 5% précédemment. Ce même texte avait supprimé l'obligation d'informer le conseil d'administration sur la signature des conventions dites courantes. Le rapport du conseil d'administration du 28 février 2014 et le projet de statut du 12 mars 2015 sont consultables au secrétariat général de la mairie. Et vous avez également en annexe une note explicative concernant l'augmentation du capital de mars 2015. Donc le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu est invité à premièrement, autoriser l'Assemblée générale extraordinaire à déléguer au conseil d'administration la faculté de réaliser en une ou plusieurs fois une augmentation de capital de 2 240 000 euros par l'émission de 140 000 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que de fixer la valeur d'émission des actions en fonction de leur valeur au bilan. D'autoriser l'Assemblée générale extraordinaire à conférer tout pouvoir au conseil d'administration afin d'instituer, le cas échéant, un droit de souscription à titre réductible pour les actions non souscrites à titre irréductible, c'est-à-dire par l'utilisation de tous les droits de souscription. Ce droit de souscription à titre réductible sera attribué aux actionnaires qui auront un nombre de titres supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible. Si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, les actions non souscrites pourront être réparties en totalité ou en partie par le conseil d'administration au profit des personnes de son choix sans qu'elles puissent être offertes au public. Le conseil d'administration pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital. L'Assemblée générale décide, en outre, que le nombre de titres à émettre dans le cadre des augmentations de capital qui pourront être décidées par le conseil d'administration en vertu de la présente délégation pourra être augmenté dans les 30 jours de la clôture de la souscription pour faire face à d'éventuelles demandes supplémentaires de titres. Cette augmentation du nombre de titres à émettre ne pourra toutefois excéder 15% de l'émission initiale. Les souscriptions complémentaires s'effectueront au même prix que les souscriptions initiales. Je vous invite également à émettre un vote négatif et à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés, d'autoriser la modification des statuts proposés et de valider le dossier que la SEMCODA doit présenter à la prochaine Assemblée générale extraordinaire consultable au secrétariat général en mairie.
Nous sommes obligés de passer ces délibérations du fait que par le lien qui nous lie la SEMCODA sur certains logements sociaux, entre autres à les logements de Cassio qui ont été rachetés par bail emphytéotique et puis les projets, nous sommes devenus actionnaires et donc nous devons passer par ces délibérations en tant qu'actionnaires. Donc, qui est pour ?
Attendez, juste une petite question. On a l'intention d'augmenter notre participation ?
Non, du tout. Non.
D'accord.
Non.
On va donc réduire notre pourcentage ?
Oui.
D'accord.
On garde la somme qu'on a.
Ok,
qui
merci.
Qui est de 300 000, quoi. Pas tout à fait, 300 000 euros.
Oui, ce qui correspondait au loyer qu'ils avaient donné peu ou prou pour la maison. Médical. Voilà. Ok.
Voilà. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Quatrième délibération, dossier de demande de déclaration d'intérêt général, programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges des cours d'eau 2015-2019, Christophe Bougot.
Le Code de l'environnement dispose que l'entretien des cours d'eau non domaniaux doit être assuré par les propriétaires riverains. Or, cet entretien reste souvent insuffisant. Il importe donc d'assurer un entretien minimal des cours d'eau dans l'intérêt général. Protection contre les crues notamment. C'est dans cet intérêt que la commune de Megève a la volonté de se substituer aux riverains sur certains secteurs présentant des enjeux importants en application du Code de l'environnement. Compte tenu de l'état actuel de dégradation des cours d'eau, les actions suivantes ont été inscrites au contrat de rivière Arly-Doronchaise porté par le syndicat mixte du bassin versant de l'Arly. B1-101, programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges des cours d'eau du bassin versant. B1-201, programme de lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes des cours d'eau du bassin versant. Les collectivités territoriales sont habilitées à recourir aux dispositifs institués par les articles L211-7 du Code de l'environnement, ainsi que le L151-36 et suivant du Code rural, pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Les interventions sont soumises à l'article L151-37 du Code rural instituant une déclaration d'intérêt général, DIG, ou d'urgence prononcée par arrêté préfectoral après enquête publique. Cette DIG permet au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées et de légitimer la dépense de fonds publics sur ces terrains. Concernant le territoire de Megève, il est envisagé de procéder à un dépôt de demande d'intérêt général par la commune. Cette dernière serait alors seule compétente pour procéder aux travaux envisagés pour passer les marchés publics et percevoir les subventions. Les travaux envisagés sont les suivants. La restauration et l'entretien des boisements de berges, enlèvement sélectif d'embâcles et de bois morts, abattage d'arbres, débroussaillage, élagage, revégétalisation, évacuation des déchets, surveillance. La lutte contre la propagation des espèces invasives, arrachage ou fauchage de renouées du Japon, décaissement, concassage du sol, bâchage, bouturage et fascinage. Le dossier d'enquête publique pour la déclaration d'intérêt général de la mise en place du programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges de l'Arly et de ses affluents sur la commune de Megève est consultable auprès du secrétariat général de la mairie de Megève. En annexe, vous avez les plans de financement prévisionnels, le programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges 2015, commune de Megève, chiffrage prévisionnel des travaux. Plan de financement provisoire, travaux 2015, programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges 2016, 2017, 2018 et 2019, commune de Megève, chiffrage prévisionnel des travaux. Le conseil municipal est invité à approuver le dossier de demande de DIG relatif au programme pluriannuel de restauration et d'entretien des boisements de berges et de lutte contre les invasives sur le territoire de la commune de Megève sur le bassin versant de l'Arly et d'autoriser Madame le maire ou à défaut son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier. Alors, je voulais vous apporter quelques précisions. Cette délibération donc concerne bien la déclaration d'intérêt général et non le financement et les actions qui vont être entreprises. La DIG va permettre au maire d'exercer son pouvoir de police et ses responsabilités face aux éventuelles inondations et d'agir en amont. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser les propriétaires, ce que pourrait laisser entendre cette délibération, mais bien de légaliser un accès et éventuellement facturer les travaux réalisés si on constate des défauts d'entretien de la part des propriétaires. Et je serai attentif à la suite de la prise de compétence GEMAPI par la communauté de communes au financement et la prise en charge des travaux par celle-ci.
Merci M. Bougaud d'avoir effectivement évoqué la prise de compétence au niveau de la communauté de communes. Puisque aujourd'hui, on a cette communauté de communes à deux bassins versants, qui sont respectivement le bassin de l'Arve et le bassin d'Arly. Et effectivement, il faudrait être très attentif à ce que nos rivières de montagne soient bien prises en considération. Et une autre petite question concernant les espèces invasives, telles que la renouée du Japon. Est-ce que on peut la... Dans le précédent mandat, nous avions essayé de donner des informations aux propriétaires pour expliquer comment éventuellement la maintenir, à défaut de la détruire et surtout de ne pas la propager. Et donc il y a des petits massifs qui ne sont pas le long des cours d'eau. Est-ce qu'on peut le rajouter dans l'action, dans cet intérêt public, quoi?
Alors c'est vrai que cette délibération concerne en effet les cours d'eau et les massifs qu'on voit qui sont un peu plus loin, un peu plus dispersé. C'est vrai que ces massifs ne sont pas inventoriés et c'est un problème parce qu'on voit que cette renouée prend du terrain et sous celle-ci, c'est le désert biologique. Voilà. Il faut vraiment, comme vous le dites, il faut vraiment pas traiter ça n'importe comment, sinon on la propage plutôt qu'on l'éradique. Donc oui, il serait intéressant d'apporter une information aux citoyens. Je pense par la lettre de Megève, ça pourrait être fait.
Oui, voilà. Je pense...
J'avais pensé rapporter une information du type de celle qui avait déjà été donnée. Redonner le même type d'information, c'est pas pour rabâcher, mais pour réinformer à nouveau la population.
Oui, c'est pour ça que je me demandais si ça ne pouvait pas faire partie du chapitre « Lutte contre la propagation des espèces invasives ». Mais enfin, si vous ne pouvez pas le rajouter...
Oui, Lionel Bureau, juste une petite question. Les propriétaires, ils seront prévenus avant quand on va intervenir ou pas? Oui, ok.
dans le dossier d'enquête publique, c'est précisé. Oui, on met en place une DIG, mais on débarque pas comme ça un matin parce qu'on l'a décidé. Il y a une information en amont. Et la DIG est vraiment très précise quant à ce qu'on peut impacter pour passer. Quoi. Il y a de mémoire, c'est 6 mètres par rapport au cours d'eau et on n'a pas le droit de passer dans les jardins des gens, bien sûr. Il y a un grand respect des personnes, la propriété privée.
Mais en fait, la DIG nous autorise à intervenir chez les propriétaires, mais de façon respectueuse, hein, on s'entend bien. Mais en accord avec les propriétaires. Vous avez d'autres questions ? Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 5, mission dialogue de gestion et performance, portée à connaissance, rapport annuel d'activité 2013, communauté de communes du pays du Mont-Blanc. La réalisation d'un rapport d'activité répond à une obligation légale détaillée à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le président d'un établissement public de coopération intercommunale doit adresser avant le 30 septembre de chaque année au maire de chaque commune membre de l'EPCI un rapport retraçant l'activité et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement au cours de l'année précédente. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire à chacune des communes membres à son conseil municipal en séance publique. Les délégués de la commune auprès de l'organe délibérant EPCI sont ainsi entendus. Le rapporteur je vous rapporte que l'Assemblée générale délibérante le rapport annuel d'activité 2013 de la communauté de communes du pays du Mont-Blanc. Il est destiné à informer les élus communautaires, les élus municipaux des communes membres, les partenaires de l'EPCI, les habitants de la communauté de communes et toute personne intéressée par les réalisations intercommunales. Ce rapport est constitué de 5 parties. Présentation de la communauté de communes, née le 1er janvier 2013, ses compétences, ses acteurs, sa fiscalité, les grandes lignes du compte administratif 2013 et les premiers projets de mutualisation. Valorisation de l'économie locale, développement économique et soutien de l'agriculture, services aux habitants, déplacements, transports scolaires, facilibus, soutien au logement, aide à vocation sociale et solidaire, pour l'hébergement, l'accessibilité, handicap et emploi, et aide au sport, loisirs et au quotidien, alors mise en réseau des bibliothèques, le ski, le centre sportif intercommunal et le chenil. Développement du territoire, donc il y a conférence de l'entente, contrat de développement Rhône-Alpes et les projets européens. Le respect de l'environnement, donc la collecte des ordures ménagères, le plan de protection de l'atmosphère, les villages durables, le programme stratégique agricole et développement durable, rural, charte forestière et plan pastoral de territoire, balisage et valorisation des sentiers, action de sensibilisation du public. L'original du rapport annuel d'activité 2013 de la communauté de communes du pays du Mont-Blanc est disponible et consultable au secrétariat général de la mairie de Megève. Donc, je vous demande de prendre connaissance de ce rapport d'activité dont je viens faire état. Et cette délibération n'est simplement qu'un portée à connaissance et ne donne pas lieu à un vote. Par contre, la sixième délibération, c'est l'approbation du rapport annuel 2013 de la communauté de communes du pays du Mont-Blanc sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. La compétence, collecte et traitement des ordures ménagères, gestion des déchetteries, est assurée depuis le 1er janvier 2013 par la communauté de communes pays du Mont-Blanc. L'article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que le président de l'EPCI présente à son assemblée délibérante, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public destiné notamment à l'information des usagers et à la transparence dans la gestion des services publics. L'article 2 du décret numéro 2404 précise que lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un EPCI, le contenu du rapport sur la qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L521139 du CGCT et est donc adressé à chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre. Ce décret dispose que le rapport doit être présenté au conseil municipal. L'annexe du décret fixe une liste d'indicateurs techniques et financiers devant obligatoirement figurer dans le rapport. Je vous présente donc le rapport annuel d'activité 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Il est établi suivant les indications données par les annexes du décret susvisé et comprend d'une part les indicateurs techniques sur la consistance et la qualité de service et d'autre part les indicateurs financiers. Ce rapport annuel 2013 spécifique aux déchets ménagers est constitué de quatre parties. Les moyens humains et matériels, l'organisation de la collecte, les déchetteries et les indicateurs financiers. L'original du rapport annuel d'activité 2013 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc est disponible au secrétariat général de la mairie de Megève et le rapport et l'avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L1411-13. Donc vous avez en annexe le rapport d'activité annuel avec les prix et qualités du service public donc d'élimination des déchets ménagers pour l'année 2013. Donc avez-vous des questions ?
Moi, Madame le maire, j'en aurais une. Ce n'est pas une question, c'est un point de vue personnel concernant justement ce rapport. À titre personnel, je vais absolument voter contre cette délibération et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quatre points qui sont traités dans ce rapport, les moyens humains et matériels, l'organisation de la collecte, la déchetterie, les indicateurs financiers. Alors concernant les moyens humains et matériels, moi j'ai constaté que sur la commune de Megève, quand il y a eu le transfert de compétences entre la commune et la communauté de la CCPMB, l'intégralité des personnels qui étaient mis à disposition pour assurer service de collecte des ordures ménagères n'a pas été repris dans son intégralité au niveau du nombre de personnes. Donc déjà, au niveau du service qui se déroule aujourd'hui sur la commune de Megève, c'est un avis personnel, j'estime que les moyens humains et matériels ne sont pas suffisants. Concernant l'organisation de la collecte, pour moi, elle est absolument insuffisante parce qu'elle ne répond pas. Déjà, il y a un caractère qui n'est pas pris en compte par la CPMB, c'est le caractère spécifique de notre station en tant que commune de montagne, à savoir que vous avez pu constater qu'au mois de décembre, notamment pendant la période de fête, on a un flux touristique qui est très important sur la commune. Ce n'est pas pour ça que la CPMB met en plus des moyens de collecte pour justement désengorger nos locaux poubelles qui sont pleins à ras-bord. Et deuxièmement, il y a une chose qui m'a choqué aussi, c'est que concernant la collecte, le ramassage du verre dans notre commune se fait aujourd'hui à des heures très tôt le matin, alors qu'à l'époque, lorsque c'était la commune qui le faisait, ça se faisait pas avant midi. Donc pour la tranquillité des habitants, excusez-moi, mais la CCPMB, elle est encore complètement à côté. Concernant maintenant notre service de déchetterie, qu'est-ce que je constate ? Je ne suis pas le seul, je constate qu'aujourd'hui, un tas d'entreprises privées qui font des travaux sur la commune de Megève se délestent de l'intégralité de leurs détritus, détritus et tout ce qui concerne des déchets de démolition, les met dans le cadre de notre déchetterie. Ce service devrait être payant pour ces entreprises parce qu'il se fait au détriment justement de notre déchetterie. Pour moi, c'est un service qui devrait être payant pour les entreprises extérieures. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'aujourd'hui, notre déchetterie, elle croule sous les déchets de démolition qui ne sont même pas du fait d'une émanation normale de ce qui devrait être récolté sur la commune de Megève. Ensuite, les derniers points dans le rapport, les indicateurs financiers. Alors ce service public d'élimination des déchets, il n'est même pas couvert aujourd'hui par la recette au niveau de la CCPMB. Alors personnellement, je suis absolument contre une augmentation de 30% pour Megève de la taxe sur les ordures ménagères qui serait prévue dans le cadre du budget 2015. Alors que pour moi, la qualité de ce service baisse. Voilà, c'était mon point de vue.
Oui, Monsieur Goujat, effectivement, bon, Sylviane Grosset, effectivement, au moment du passage à la communauté de communes, il y a eu un grand moment d'incompréhension. On a essayé régulièrement d'expliquer justement que dans une commune comme Megève, eh bien, c'est pas comme ailleurs et que parfois, précédemment, nous faisions plusieurs ramassages dans la journée sur certains mazots. Donc d'ailleurs, on a gardé la petite benne à ordures ménagères qui le fait aussi. Et je rappelle que notre propre benne à ordures ménagères collecte encore des secteurs que la CCPMB ne collecte pas. Je pense aux mouilles, je ne sais pas s'ils y sont toujours, et le mazot qui est à côté de, qui est derrière l'église. Alors, à partir de là, il y a eu quand même des progrès, un peu de progrès. Alors, je vous rejoins hein, sur l'heure de ramassage, sur le bruit qui est une nuisance épouvantable pour notre collectivité. Par contre, votre inquiétude en ce qui concerne l'augmentation peut-être du taux, eh bien, elle est non seulement justifiée, mais je doute qu'on puisse y échapper. Parce que à la communauté de communes, on nous a dit que justement, il y aurait une harmonisation des taux, c'est-à-dire que si c'est basé sur un impôt, je ne sais pas, la taxe d'habitation, eh bien, on va dire que pour 2 mètres carrés à Megève qui ont une valeur, une base fiscale, on va dire, de 1000, eh bien, sur Sallanches, elle ne sera peut-être que de 300 ou de 400. Alors 1% ou 2% supplémentaires sur nos bases, c'est colossal. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est qu'avant que cette compétence soit une compétence intercommunale, la commune de Megève avait un excédent sur le montant prélevé auprès des contribuables. C'est la raison pour laquelle nous avions un peu diminué le taux pour que les choses soient conforme à la réglementation. Alors c'est un sujet qui est important, pour lequel je vous rejoins à certains points, mais je peux vous dire qu'il y a eu des progrès et il faut continuer de se faire entendre. Par contre, pour les taux, je suis beaucoup plus inquiète que vous.
Alors, je confirme qu'effectivement, aujourd'hui, les ordures, le transfert de la compétence ordures ménagères au sein de la communauté de communes devait engager un coût, une diminution des coûts. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette diminution de coûts, nous avons un déficit et effectivement, nous serons obligés d'appliquer une augmentation du taux de prélèvement sur certaines communes et dont Megève en fait partie. Donc j'ai demandé à la communauté de communes d'effectuer quand même un audit sur cette compétence-là, de façon à ce que l'on arrive à repérer les points de dysfonctionnement, tant au niveau peut-être des charges de personnel et de la problématique qui engendre aujourd'hui un déficit dans ce service. Donc je confirme qu'effectivement, il va falloir se battre pour éviter que le taux ne progresse de façon trop élevée pour la commune de Megève, parce qu'on fait partie aujourd'hui des communes qui ont un des taux les plus bas. Et donc nous allons être, je dirais, impactés. Donc je vais me battre de façon à ce que ce taux qui obligatoirement va être augmenté pour pouvoir pallier, je dirais, au déficit de cette compétence. Mais je me battrai de façon à ce que ce taux progresse progressivement et n'impacte pas le contribuable de Megève par rapport à, je dirais, une qualité de service qui aujourd'hui, je ne considère, n'est pas à la hauteur. Bon, il faut savoir que quand la compétence a été transférée, on avait estimé à un taux de prélèvement qui aujourd'hui était à 7,75 et aujourd'hui, nous, notre taux de prélèvement est à 5%. Le taux sur lequel on voudrait, la communauté de communes voudrait, je dirais, lisser tous les taux de toutes les communes est à 6,75. Donc aujourd'hui, nous, notre taux de 5% devrait passer à 6,75. Chose qui devra se faire très progressivement, de façon, je vous dis, à ne pas impacter le contribuable mégevant de façon trop marquée.
Marie-Christine Ancenet, excuse-moi Lionel. Moi je voulais juste rappeler pour la petite histoire, justement quand nous avions voté cette délibération de l'entrée en compétence à la Comcom des ordures ménagères, le conseil municipal avait voté contre. Et toutes ces questions qui arrivent aujourd'hui, elles ont été, toutes ces inquiétudes, eh bien, nous en avions discuté. Et malheureusement, elles s'avèrent réelles. Et en plus, elles sont encore positivées. C'est beaucoup plus cher que prévu.
Je peux vous dire que je me battrai pour obtenir une qualité de service et je dirais une augmentation du taux de façon plus que progressive, de façon à ne pas impacter le contribuable mégevant. Mais de toute façon, je souhaite que, et nous sommes plusieurs, élus au niveau de la communauté de communes, à demander un audit sur ce service, de façon à nous donner des pistes pour avancer dans l'amélioration de la qualité du service.
D'ailleurs, à ce titre, je me permets de rajouter à tous autour de cette table, et même dans le public, si vous constatez vraiment des choses qui vous choquent, et moi, il y en a qui m'ont choqué pendant ces vacances, je les ai rapportées à la CCMPMB, on m'a répondu, et je pense qu'il faut faire voir que nous ne sommes pas contents du service qui est en face. Voilà. On a droit à quelque chose de mieux que ça, surtout que c'est l'image de Megev qui est en jeu. Et... sur certains masos, on n'a pas laissé une belle image aux gens qui sont nus dans notre village.
Depuis ma prise de fonction, je me bats avec M. Colibet, le président de la communauté de communes, un des vice-présidents de la communauté de communes, en charge justement des ordures ménagères, sachant qu'on a souvent fait le constat que nos locaux poubelles ne sont pas entretenus, ils sont sales, voire très sales. C'est vraiment reboutant de rentrer à l'intérieur de ces locaux. Les services techniques de la ville de Megève les nettoyaient deux fois l'an, voire plus. Je constate, à côté de chez moi, il y en a un, je crois que ça fait plus de 6 mois, il n'a jamais été visité. Donc oui, on fait remonter les informations, on nous répond que c'est un problème de personnel, c'est un problème de véhicule, qu'on va acheter un véhicule, mais ça se fait toujours pas, ça n'avance toujours pas, donc on lâche pas, on tient, mais voilà.
Je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard, mais je dois avoir l'esprit mal tourné, une volonté de ces gens-là de faire disparaître nos masos pour les remplacer par des molochs?
Si, effectivement, mais bon, ce qui peut peut-être nous sauver, c'est que ça a un coût et qu'aujourd'hui, le budget des ordures ménagères n'est pas, je dirais, au positif. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir gagner dans le temps.
Et je rajouterais, Madame le maire, que le foncier n'est pas clairement... n'appartient pas à la collectivité.
Le foncier n'est pas à la collectivité, donc il faut aussi régulariser le foncier pour pouvoir installer ces molochs. Mais je pense que dans un premier temps, c'est une question de budget qui fera que nous allons décaler les délais.
Oui, Lionel Burry, je remercie Frédéric Gouja pour ses remarques. Moi, j'en avais une aussi par rapport à ce sujet qu'à l'époque, j'avais déjà parlé. C'est vis-à-vis des restaurants et de l'hôtellerie. Tous ceux qui ont des problématiques pour emmener toutes ces ordures, c'est vrai que souvent, c'est des femmes de ménage qui ne sont pas forcément costauds et qui traînent des sacs de 100 litres qui sont souvent percés sur les trottoirs et qui se baladent. Et c'est pas toujours agréable de voir ça aussi. Donc il y avait une problématique vis-à-vis de ces commerces-là qui est quand même importante aussi. Donc je sais qu'on peut pas les ramasser personnellement eux, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Parce que souvent, ça remplit facilement une ou deux bennes, surtout les week-ends. En plus, pour les bouteilles, c'est pareil. Donc je veux dire, là, il y a vraiment un gros problématique de ce côté-là. Alors pour les molochs, je sais pas, c'est une réflexion aussi à avoir, parce que moi je sais qu'à côté de ma boutique j'avais des molochs avant. Quand il y avait 30 cm ou 40 cm de neige, et ben les gens ils déneigeaient pas et ils posaient sur le trottoir. Quand il y avait un sac, c'est pareil, ils posaient sur le trottoir. Quand c'était plein, ils posaient sur le trottoir. Donc là je sais que c'est dans une cabane, c'est fermé, c'est sûr que c'est entassé dans la cabane, mais c'est moins visible que quand ça traîne sur le trottoir. Donc ça aussi c'est une réflexion à avoir vis-à-vis des molochs.
C'est vrai qu'on reconnaît. Bon, ben, il y a l'entretien à l'intérieur des cabanes qui est, je dirais, à faire plus régulièrement. Mais effectivement, au niveau du visuel, il est plus joli de regarder une cabane que de regarder un amoncellement de détritus autour d'un moloch.
Et par rapport au chantier, c'est vrai que Frédéric aussi a raison. Le chantier qui se déroule derrière ma boutique aussi, j'ai vu souvent les entreprises qui amènent, c'est pas des grosses choses, mais c'est des ordures du chantier qu'ils amènent aussi là.
Effectivement, la démarche aussi au niveau de la communauté de communes, c'est aujourd'hui d'envisager une déchetterie pour les gros déchets, industriels, c'est-à-dire tout ce qui est gravat, parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui vont déverser leurs détritus dans notre déchetterie, mais qui ne sont pas forcément contribuables et ne participent pas au coût du service dans leur façon de rejeter leurs déchets. Donc c'est aussi du côté de la communauté de communes, c'est une piste aussi qui est évoquée de créer, je dirais, une déchetterie industrielle pour les gros gravats et les entreprises avec des gros déchets.
Oui, je me permettrai de rajouter que vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux un film qui est passé récemment et qui montrait que encore sur certains chantiers, il y avait un coup de pelle. C'était Mitsu. Non, mais c'était vieux, c'était il y a 2 ans. Mais n'empêche que, quand même, il faut être très attentif parce que bouger un curseur peut parfois générer plus de nuisances que de recettes.
C'est vrai que aussi, si ce service devenait payant, ça pourrait aussi être, je dirais, l'ouverture à des décharges sauvages et des amoncellements de détritus n'importe où. Bon, tout ce qu'il a pour vous. En conclusion, sachez que tous les membres élus à la communauté de communes travaillent, et moi en tant que première vice-présidente, à améliorer la qualité de ce service en impactant le moins possible le contribuable. Nous nous y attelons tous à cette tâche. Donc on va passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Alors, il y a qui est contre ? Et donc, il y a 4 abstentions, c'est ça ? Et qui s'abstient ? Voilà, il y a 4. Micheline avait dit contre. Voilà. Et 4 abstentions. Merci. Délibération numéro 7, versement d'acompte sur subvention avant adoption du budget primitif 2015, approbation de convention d'objectifs et autorisation de signature, Frédéric Goujat.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations déclarées peuvent recevoir des subventions des communes. Toutefois, l'octroi d'une subvention n'est nullement un droit et il est prévu qu'en cas d'inexécution ou d'utilisation des fonds non conformes à leur objet, la subvention doit être restituée et ne doit pas être renouvelée. En vertu de l'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, la collectivité qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse 23 000 euros, conclure une convention d'objectif avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Cette convention doit définir l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Pour bénéficier d'une avance, les organismes concernés doivent simplement faire la demande auprès de la commune de Megève dans des délais permettant de procéder à la mise en paiement avant le 31 mars. L'association Club des Sports a sollicité le versement d'un acompte supérieur à 23 000 euros pour laquelle un projet de convention a donc été établi. Cette convention fixe les modalités d'utilisation de la subvention et rappelle les obligations de contrôle qui découlent de l'utilisation des fonds publics. S'il y a modification, les avenants à la convention d'objectifs et de moyens jointes en annexe seront rédigés lors du vote des subventions définitives. Par ailleurs, l'établissement public Megève Tourisme a sollicité le versement d'un acompte sur subvention. Toutefois, s'agissant d'un organisme de droit public, la convention d'une convention d'objectifs au sens de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas requise. En annexe, vous trouvez le projet de convention d'objectifs et de moyens du Club des Sports. Le Conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à verser des acomptes sur les subventions 2015 à l'association et à l'EPIC qui en font la demande et dont la liste est la suivante. L'EPIC Megève Tourisme a sollicité un acompte pour 2015 de 355 000 euros, soit 3/12, ça représente 25% de la subvention 2015 demandée. Le Club des Sports, en fonctionnement, 125 000 euros pour le Skier Cross, 100 000 euros. Prévoir au budget primitif 2015 des subventions à cet organisme et à cet établissement public pour un montant au moins égal à celui des acomptes. Les crédits nécessaires seront prévus sur le budget de l'exercice 2015 au chapitre 65. Adopter le projet de convention d'objectifs et de moyens à conclure avec l'association Club des Sports. Autoriser Madame le maire ou son représentant d'humanité à signer la convention d'objectifs et de moyens et effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente.
Donc voilà, c'est le versement de ces subventions permet aux structures Megève Tourisme et Club des Sports de continuer à je dirais, travailler correctement en attendant le vote du budget définitif. Donc, qui est pour ?
Oui, j'ai juste une question.
Oui, pardon.
Oui. Par rapport au ski cross, je pense que c'est pour les deux courses, parce que là, c'est marqué que ski cross, il y a les bosses aussi avec.
Oui, 250, c'est les deux, c'est les deux compétitions.
Non, comme c'est pas noté. Oui, non, okay.
C'est les deux compétitions. Oui.
Donc, le club des sports a quand même pris une assurance habituellement, comme ils font.
Oui, ils l'ont enfin, pris.
C'est la commune qui l'a prise. Non, c'est pas la commune qui organise, c'est le club des sports, mais c'est la commune qui verse la subvention. Et. En cas d'annulation, la commune a préféré justement souscrire cette assurance.
Ça a été le cas l'année dernière, 12 000 euros. Ça a été le cas comme ça l'année dernière, je crois. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8, pôle marché et achat public, réhabilitation des bâtiments des alpages de Bascombe et de Chevan, marché de travaux, autorisation de signer les marchés, Laurent Soquet.
Par décision numéro 2014-043 MAPA, en date du 10 septembre 2014, il a été décidé d'attribuer un marché de maîtrise d'œuvre visant la réhabilitation des bâtiments des alpages de Bascombe et de Chevan. À Flou, Atelier d'architecture société située à Grenoble. Ces deux alpages se situent sur la commune de Praz-sur-Arly. Leur exploitation est confiée à des agriculteurs depuis de nombreuses années. La collectivité a souhaité engager la réhabilitation de ces bâtiments afin d'améliorer la qualité de travail des exploitants et créer une nouvelle dynamique pour la production fromagère. Les bâtiments représentent une surface totale de 248 m² pour l'alpage de Bascombe et de 619 m² pour celui de Chevan. Des travaux de rénovation ont été réalisés en 2001 sur le bâtiment de l'alpage de Bascombe. Le programme de travaux porte sur l'aménagement extérieur des abords de ce bâtiment, ainsi que sur le traitement des eaux blanches et des lisiers. Pour le bâtiment de l'alpage de Chevan, outre les travaux extérieurs des abords, l'intervention portera également sur le bâtiment. Il est prévu la reprise des façades et des toitures, la rénovation intérieure du logement, la mise aux normes de la laiterie et fromagerie, ainsi que des travaux sur les locaux agricoles, dalles, planchers, abreuvoirs, huisserie et fenêtres, mise aux normes électriques. Le maître d'œuvre, au stade avant-projet définitif, APD, a fixé l'enveloppe prévisionnelle des travaux à 437 346,10 euros hors taxes, 74 901,57 euros hors taxes pour l'alpage de Bascombe et 362 444,53 euros hors taxes pour celui de Chevan. Pour effectuer ces travaux, il est prévu de lancer une consultation en lots séparés selon la procédure adaptée. Il est proposé d'adopter la présente délibération avant la publication de l'avis d'appel public à la concurrence sur le fondement de l'article L221-22-21-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, proposition, le conseil municipal, exposé du rapporteur entendu, est invité à autoriser le maire ou son représentant à engager la procédure de passation des marchés de travaux relatifs à la réhabilitation des bâtiments des alpages de Bascombe et de Chevan. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les marchés avec les entreprises ayant proposé des offres économiquement les plus avantageuses dans la limite de l'enveloppe prévisionnelle des travaux indiqués dans l'exposé. Autoriser Madame le maire ou son représentant à déposer les dossiers de demande de subvention pour cette opération auprès des organismes compétents. Prévoir les crédits correspondants sur son budget au chapitre 21.
Vous avez des questions ?
Oui, donc on sait que la réglementation est de plus en plus stricte en matière, on parlait des eaux blanches, donc les petits laits, les lavages de moules et de choses comme ça pour le fromage. C'est un investissement conséquent. Ma question est la suivante, il faudra bien veiller à ce qu'il y ait réellement fabrication quand tout sera aux normes, parce qu'il est vrai qu'on sait qu'une partie du lait, je ne parle pas de Chevan, mais peut-être d'autres exploitants, est carrément livré à la coopérative du Col des Saisies, sans passer par la case fabrication.
Pardon, ce serait la solution la plus simple, évidemment, pour tout le monde. Aujourd'hui, le groupement pastoral en place à Chevant, qui exploite Chevant aujourd'hui, attend l'autorisation de pouvoir fabriquer. Donc aujourd'hui, ils n'ont toujours pas l'autorisation. Donc on avancera les travaux en fonction de l'autorisation ou non de pouvoir fabriquer.
Donc qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. Délibération numéro...
Je peux juste rajouter quelque chose ?
Pardon.
Suite à ces travaux qui sont envisagés sur la page de Chevant, moi je m'étais renseignée il y a quelque temps. Pour un alpage avec 40 bêtes entravées, il y avait pour 450 000 euros de travaux complets. Voilà. Donc on voit que quand il y a des alpages qui sont laissés sans entretien pendant de longues années, eh bien le coût est quand même pas anodin. Voilà. C'est juste d'entretenir un petit peu au fur et à mesure.
On traite deux bâtiments quand même. Voilà.
Oui, je sais.
Les deux exploitations.
Enfin, par rapport... Voilà, c'était juste une petite renseignement.
Et on est dans la continuité de ce qui avait été engagé pour pouvoir récupérer la totalité des subventions, puisqu'aujourd'hui, on est aussi en train de rechercher des subventions au niveau de l'Europe.
C'est très bien.
Donc, délibération numéro 9, pôle marché et achat public, travaux d'entretien et de grosses réparations sur la voirie. Lot numéro 2, travaux de revêtement, marché de travaux, avenant, approbation, Laurent Soquet.
Par délibération numéro 2013-286-DEL, en date du 16 décembre 2013, l'Assemblée délibérante a attribué le lot numéro 2 de travaux de revêtement de chaussée, numéro 2014-002, au groupement d'entreprises composé de Guentoli et Sciorra. Il s'agissait d'un marché à bon de commande conclu avec un minimum de commande de 250 000 euros hors taxes et un maximum d'€1 million hors taxes. La durée du contrat était d'une année à compter du 1er janvier 2014. Ce marché permet à la commune d'effectuer l'entretien de revêtements de sa voirie et de ses espaces publics. Un programme de travaux est arrêté après la saison d'hiver en fonction de l'état du réseau routier. Il est également utilisé pour réaliser des interventions non programmables lors d'apparitions de trous dans la chaussée ou nids de poules, demandant une intervention rapide. Aujourd'hui, le conseil municipal est souhaité pour approuver la passation d'un avenant numéro 1 à ce contrat. Il s'agit de prendre en compte les prestations supplémentaires intervenues en fin d'année qui n'avaient pas été initialement prévues. Il s'agit notamment des travaux de revêtement concernant le parking du Palais des Sports, l'allée des Lots, les abords du bâtiment de Praille. L'ensemble des travaux complémentaires sont évalués à près de 100 000 euros hors taxes. Par conséquent, afin de pouvoir mandater ces prestations commandées aux titulaires du marché, il convient de porter le montant maximum de ces prestations du marché à 1 085 000 euros hors taxes. Il est proposé de conclure un avenant numéro 1 pour entériner cette décision. Le conseil municipal donc, est invité à approuver l'avenant numéro 1 au marché 2014-002 relatif à des travaux de revêtement de chaussée portant le montant maximum à 1 085 000 euros hors taxes. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cet avenant numéro 1 avec le groupement d'entreprises composé de Guintoli et Sciorra. Prévoir les crédits correspondants sur son budget au chapitre 011.
Donc, qui est pour ?
Juste là, ce n'est pas de nature à changer le marché, quoi, par rapport à... Donc, 80 000 euros, ce n'est pas suffisant, quoi. On est bien. Non, mais je veux dire ceux qui n'ont pas été retenus pour ce marché ne viennent pas dire nous, on a répondu pour 1 million et là, on est à 1 million 80 000. Non, mais c'est juste pour s'en assurer.
Oui, mais comme c'est un marché à bon de commande, je pense que par rapport. Les pourcentages doivent être quand même respectés. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle développement et aménagement durable, bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2014. Patrick Philippe.
L'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année 2014, tracé sous la forme d'un tableau récapitulatif, 6 juin, précisant la date de la signature de l'acte, la nature du bien, sa localisation, la nature de la mutation, le montant de l'opération, ainsi que le notaire en charge du dossier. Donc vous avez en annexe le tableau récapitulatif. Donc proposition, le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à prendre acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune pour l'exercice 2014 annexé à la délibération. Approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune pour l'exercice 2014 qui sera annexé au compte administratif 2014. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente.
Donc, qui est pour ?
Oui, j'ai juste une petite question. Oui. Le terrain du mât, il n'est pas notifié ou c'est le marais du Planet ? C'est ça, non ? Le petit terrain qui avait été fait du mât ?
Oui, c'est le marais du Planet.
Marais du Planet.
D'accord, ok.
Donc, on peut se réjouir de voir que, enfin, l'acte de vente pour le terrain communal route de l'Adi, enfin, le bâtiment a pu être signé. 3 850 000, c'est...
L'Alpe-Fleurie,
oui. Voilà. 3 850 000, c'est... Le 26 décembre, c'était une belle surprise de Noël. Merci.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle développement et aménagement durable, déplacement d'une partie de la voie communale dénommée route du Villard, modification et classement du nouveau tracé, élargissement d'une partie du chemin de Rosonnet, résultat de l'enquête publique préalable. Patrick Philippe.
Par délibération en date du 24 février 2014, le conseil municipal a approuvé le dossier de déclassement d'une portion de la route du Villard sur sa partie haute au niveau du virage situé à proximité de la ferme cadastrée section AZ numéro 13, de classement du nouveau tracé et de l'élargissement à 5 mètres d'une partie du chemin du Rosnay. Il est rappelé que cette décision fait suite à la demande des propriétaires de la ferme susvisée qui connaissent des nuisances dues au trafic qui s'est accentué suite à la forte urbanisation du secteur du Villard Nord. Par arrêté municipal en date du 28 août 2014, Madame le maire a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'approbation du classement d'une portion de la route du Villard, d'une portion de la route du Villard, du classement dans le domaine public du nouveau tracé et de l'élargissement d'une partie de la route du chemin du Rosnay. L'enquête publique s'est déroulée sur une période de 15 jours, du lundi 6 octobre 2014 au 20 octobre 2014 inclus. Un dossier et un registre ont été mis à disposition du public au sein de la mairie de Megève pour lui permettre de prendre connaissance du projet et éventuellement de formuler des observations. Dans le même but, monsieur le commissaire enquêteur a tenu des permanences au sein de la mairie de Megève. À l'issue de l'enquête publique, deux observations ont été consignées par les propriétaires privés concernés par le projet et les cessions nécessaires à sa réalisation. Les observations sont les suivantes. Le propriétaire des parcelles AZ numéro 7 et 8 s'inquiète de la mise en forme de la route et de la nature du revêtement prévu au niveau du chemin du Rosnay. Le propriétaire de la parcelle AZ numéro 9 précise dans le registre d'enquête que la clôture de la propriété cadastrée section AZ numéro 8 est implantée sur l'emprise de la route et demande à qu'elle soit déplacée afin de respecter l'alignement. Par rapport à ces observations, M. le commissaire enquêteur précise dans son rapport d'enquête du 27 octobre 2014 que le revêtement en enrobé est prévu pour le chemin du Rosnay sur une largeur de 5 mètres, tel qu'indiqué sur le plan de voirie et l'estimation des dépenses jointes au dossier d'enquête. Concernant le projet, il est exact que sur une dizaine de mètres, la clôture de la propriété section AZ numéro 8 se trouve sur une cinquantaine de centimètres dans l'emprise de la route, ce qui aurait pour effet d'amener l'enrobé au haras de cette clôture et de poser des problèmes, ne serait-ce que pour le déneigement de la voie. En prenant en compte les observations faites lors de l'enquête et considérant qu'aucune remarque n'a été formulée quant aux surfaces à céder, nécessaires au projet et que les propriétaires ont donné leur accord, M. le commissaire enquêteur émet dans son rapport du 27 octobre 2014 un avis favorable à la demande de modification d'une partie du tracé de la route du Villard et à l'élargissement à 5 mètres d'une partie du chemin du Rosnay, étant entendu qu'il serait souhaitable que la clôture longeant la parcelle section AZ numéro 8 situé sur le domaine public, soit déplacé afin de respecter l'alignement conformément au projet. Sur ce dernier point, nous avons demandé au service d'intervenir auprès de ce propriétaire pour qu'effectivement il régularise la situation. Alors je me renseignerai pour savoir cet effet. Donc vous avez le plan annexé, alors qu'il ne montre pas le projet du nouveau tracé, mais je crois qu'on avait eu l'occasion déjà de le présenter. En tout cas, il avait été vu lors de précédents... conseils municipaux. Proposition. Le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à décider le déclassement d'une portion de la route du Villard sur sa partie haute au niveau du virage situé à proximité de la ferme cadastrée section AZ numéro 13, à la jonction avec le chemin du Rosnay, la modification de son tracé et le classement de la nouvelle emprise. Décider l'élargissement à 5 mètres de la largeur de la plateforme d'une portion du chemin du Rosnay de sa jonction avec la route du Villard jusqu'à la limite de la parcelle privée cadastrée section AZ numéro 2050. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les actes de vente ainsi que tout document afférent au dossier et exécuter toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Bon, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité.
Une petite question. Les travaux seraient prévus pour quand ?
Alors, c'est vrai que les travaux étaient programmés en 2014, mais on avait préféré donc faire les choses dans les règles et d'abord procéder au déclassement et en tout cas au reclassement du nouveau tracé. Voilà, on s'était engagé à les réaliser en tout cas en 2015. Je pense que lors du vote du budget, on en saura un petit peu plus. Enfin, on présentera ce projet-là et cette réalisation en 2015. Voilà.
Délibération numéro 12, pôle bâti, convention d'assistance à la valorisation des actions d'économie d'énergie, autorisation de signer, Laurent Soquet.
La loi POC du 13 juillet 2005.
La loi POP du 13 juillet 2005, donc la loi POP, c'est la loi d'orientation politique énergétique, confiée aux articles L221-1 du Code de l'énergie, a institué le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Le principe est que les vendeurs d'énergie ont l'obligation de réaliser et d'inciter à la réalisation d'opérations d'économie d'énergie ou bien de s'acquitter d'une pénalité dissuasive. Ces opérations d'économie d'énergie permettent aux vendeurs d'énergie d'obtenir des certificats d'économie d'énergie qui ont une valeur marchande et sont librement négociables. La société Géo-PLC a pour activité le conseil et l'assistance dans l'identification d'actions susceptibles d'ouvrir droit à des certificats d'économie d'énergie, l'accompagnement aux fins de conversion des actions d'économie d'énergie et leur vente. La commune de Megève mène une politique de valorisation de son patrimoine immobilier, passant notamment par une amélioration des qualités thermiques des bâtiments. Dans ce cadre, l'expertise de la société Géo-PLC permet à la commune de valoriser les actions réalisées sur ses biens et d'identifier de nouvelles actions permettant de générer des certificats d'économie d'énergie. Afin de formaliser le partenariat, une convention a été conclue le 18 septembre 2013 entre la commune de Megève et la société Géo-PLC visant à identifier l'ensemble des économies d'énergie réalisées par la commune, les répertorier et d'en calculer les contreparties énergétiques et de solliciter l'obtention de certificats d'économie d'énergie en contrepartie. Cette convention vise des opérations éligibles dont le volume est inférieur au seuil de 20 GWh CUMA. Suite à un changement de structure, la société Géo-PLC a disparu au profit de la société Géo-France. Afin de formaliser cette évolution et permettre la poursuite du suivi des dossiers, une nouvelle convention annexée à la délibération est proposée au conseil municipal. Donc en annexe, vous trouvez le projet de convention. Proposition, donc le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu, est invité à autoriser Madame le maire à signer la convention avec la société Géofrance, telle qu'annexée à la présente délibération. Autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette convention.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 13, pôle famille, enfance, éducation, restauration scolaire, avenant numéro 4, contrat pour la fourniture de repas pour le collège Saint-Jean-Baptiste, Marie Cabuchet.
Le service de restauration scolaire de la commune assure la production et la distribution des repas du midi pour les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste pendant toute la durée de l'année scolaire. Les tarifs en restauration scolaire sont fixés par décision et par délibération municipale en août, suivant le coût de revient complet réalisé sur l'année scolaire précédente. Le collège Saint-Jean-Baptiste doit pouvoir communiquer à ses familles le tarif avant la fin de l'année scolaire pour l'année suivante. La communication tardive du prix du repas en août n'est pas satisfaisante pour une application dès la rentrée scolaire. Ainsi, il a été décidé d'un commun accord avec le président de l'OGEC, son directeur et la municipalité que les tarifs de la restauration scolaire seraient arrêtés pour chaque année civile. Le collège Saint-Jean-Baptiste pourra ainsi annoncer à ses familles les nouveaux tarifs de la restauration au cours du premier trimestre de l'année scolaire. La présente convention prend effet du premier jour de rentrée dans l'établissement scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire officielle. Il convient de modifier les conditions du contrat d'engagement entre le collège Saint-Jean-Baptiste et la commune de Megève pour la tarification des repas des élèves et accepter le report des nouveaux tarifs à compter du 1er janvier de chaque année. En annexe, vous trouverez l'avenant numéro 4 de la convention entre la commune et le collège, révision des modalités de refacturation et l'application des nouveaux tarifs au 1er janvier. La proposition, le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 4 à la convention dans la limite stricte des conditions exposées ci-dessus et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les formalités nécessaires à l'application de la présente délibération.
Voilà, cette délibération est prise pour faciliter la communication du coût du repas en l'ayant à l'avance, bien avant la fin de l'année scolaire, pour que les familles soient pas informées à la dernière minute.
Madame le maire, je vous informe que je ne prends pas part au vote du fait de mon lien avec l'école Saint-Jean-Baptiste.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, il y a une abstention. Ne prend pas part au vote, pardon. Christophe Bougot. Délibération 14, c'est pôle famille, enfance, éducation, accueil de loisirs, règlement de fonctionnement, Nadia Arnaud-Prin.
L'accueil de loisirs situé 26 allée des Lutins accueille 48 enfants âgés de 3 ans à 12 ans pendant les vacances scolaires de 8h à 18h30 et les mercredis pendant l'année scolaire de 14h à 18h30. Dans le cadre du projet d'expérimentation relatif à l'organisation des rythmes scolaires, l'école Henri Jacques-Lemême a adopté une libération de 8 mercredis pendant la période hivernale. Les 7, 14, 21 et 28 janvier, le 4 février, le 11, 18 et 25 mars 2015. Pour répondre aux besoins de garde des familles pendant la saison, l'accueil de loisirs est ouvert toute la journée à tous les enfants pendant ces 8 mercredis libérés. Le règlement de fonctionnement de la structure doit être modifié en fonction de ces nouvelles modalités d'accueil et des nouvelles conditions d'horaire d'ouverture, de réservation ou d'annulation des séjours. L'accueil est réservé aux enfants résidant à Megève, Demi-Quartier et Prince-sur-Arly et aux enfants dont les parents travaillent sur ces trois communes. Les familles doivent fournir à l'inscription un justificatif de domicile sur résidence principale datant de moins de 3 mois et leur numéro d'allocataire à la caisse d'allocation familiale ou avis d'imposition N-2. La tarification personnalisée adoptée au Conseil municipal du 9 décembre 2014, qui consiste à appliquer directement un pourcentage sur les ressources mensuelles de la famille en tenant compte de sa composition et de son lieu de résidence ou d'emploi, doit figurer dans le règlement de fonctionnement. Pour acceptation de ce nouveau règlement de fonctionnement de l'accueil de loisirs pour les locaux, le vote d'une délibération est proposé au conseil municipal. En annexe, vous avez le règlement de fonctionnement qui correspond à celui qu'on avait vu la dernière fois, sauf ce qui a été rajouté, c'est concernant les mercredis libérés. Proposition. Le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu et invité à appliquer les nouvelles dispositions à compter de ce jour. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout acte et tout contrat et accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Donc qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité, merci. Pôle O, régie municipale de l'assainissement, mise en place de l'inventaire patrimonial des réseaux d'eau potable. Laurent Soquet.
J'expose au conseil municipal le projet visant à mettre en place l'inventaire patrimonial des réseaux d'eau potable estimé à 22 141 euros TTC. L'objectif est de répondre aux prescriptions du décret 2012-97 du 27 janvier 2012, mais également de permettre une gestion patrimoniale optimisée. Le programme de travaux portera sur la mise en place d'un plan SIG, la recherche d'informations sur le réseau Nature Année de Pause linéaire, la synthèse des informations et le renseignement de la base des données SIG. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Donc, l'inventaire patrimoine des réseaux, donc pour le montant global 22 141,01 TTC. Donc pour l'agence de l'eau, 50% prise en charge, donc 11 070,50 euros TTC, et pour le maître d'ouvrage, 50%, 11 070,50 euros TTC. Donc le conseil municipal, l'exposé du rapporteur entendu est invité à approuver le projet visant à mettre en place l'inventaire patrimonial des réseaux d'eau potable estimé à 22 141,01 euros TTC. Autoriser le maire à solliciter les subventions pour cette opération auprès de l'agence de l'eau et autoriser Madame le maire à signer tout document administratif ou financier nécessitant l'exécution de la présente délibération. Donc l'agence de l'eau, si on ne met pas en place cet outil, nous menace de doubler la cotisation qu'on verse à l'agence de l'eau.
Oui, mais
qui pourrait approcher les 130 000 euros pour fin 2015.
Oui, tout à fait. C'est évident que c'est surtout l'opération pour l'inscrire au SIG, puisque depuis des années, les responsables de la régie des eaux ont établi des plans en trois, enfin avec les longitude, latitude, altitude. Je veux dire, les documents de base sont importants. C'est pour ça que 22 000 euros, bon, ça c'est pas une somme excessive, et il faut absolument aller au bout de cela pour que tout cela soit informatisé. Et qu'on n'ait pas les mauvaises surprises creusées à côté des réseaux.
Tout à fait, ça nous permettra aussi de connaître la qualité des différentes colonnes d'eau, soit en fonte chinoise, en fonte grise ou en fonte... voilà.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle ressources humaines, emploi et compétences, gratification des stagiaires, Jocelyne Coff.
La réglementation prévoit le versement d'une gratification au stage de plus de 2 mois consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire. La délibération du 3 septembre 2012 prévoit pour les stages inférieurs à 2 mois la possibilité d'accorder aux stagiaires une gratification proratisée au temps de présence, sur avis et rapport écrit du coordinateur de pôle et sur accord de l'autorité territoriale. L'accès à la Fondation Morin à l'art pour se restaurer est à ce jour payant pour tous les stagiaires, stage inférieur et supérieur à 2 mois, au même tarif que les agents de la collectivité. Je rappelle que par délibération du 28 janvier 2013, le Conseil municipal définissait comme suit l'attribution des gratifications des stagiaires de l'enseignement supérieur dans le cadre de leur cursus. L'attribution aux stagiaires de l'enseignement supérieur d'une gratification selon leur diplôme, soit 100 euros bruts par diplôme. Au vu du nouveau décret imposant une augmentation de la gratification des stages, vous avez le détail dans le tableau qui vous est présenté sur cette délibération, suivant la date de signature de la convention de stage. Donc je ne vous relis pas tout, je pense que vous en avez pris connaissance. Sachant qu'à compter du 1er décembre 2014, le calcul de la présence du stagiaire est fait sur la base de 154 heures. Un mois correspond à une présence effective de 22 jours, consécutif ou non, et 7 heures de présence, consécutive ou non, comptent pour un jour. Il est proposé une modification de cette modalité, à savoir la suppression de la gratification des stagiaires en fonction de leur diplôme et une application de la nouvelle réglementation. Proposition, donc vous êtes invités à supprimer la gratification des stagiaires en fonction de leur diplôme. Deuxièmement, d'accorder la gratuité à la Fondation Morin à l'Art pour la restauration des stagiaires étudiants d'une durée de moins de 2 mois. Et troisièmement, appliquer la nouvelle réglementation.
Est-ce à dire que, donc, que ce soit un étudiant qui a déjà un beau cursus, d'études et quelqu'un qui serait, en BEP, pourquoi pas, hein, donc auront exactement la même gratification.
Oui, tout à fait.
Il nous avait semblé que la mesure qui avait été prise était gratifiante et surtout permettait d'avoir une collaboration particulièrement intéressante pour la commune aussi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans les entreprises privées, si c'est la même chose, mais c'est la même chose. Sa réglementation, je voterai contre.
Donc, qui est pour ?
Tous pareil.
Qui est pour ? Donc, qui est contre ? Donc, un contre. Et qui s'abstient ?
Je m'en fous. C'est pas juste.
Merci.
C'est rien contre vous, hein ?
Pôle ressources humaines, emploi et compétences, accueil en apprentissage, attribution d'une rémunération, CID. Jocelyne Co.
La collectivité a souhaité répondre favorablement à une demande de contrat d'apprentissage sous la responsabilité du pôle système d'information et dématérialisation. Monsieur Marin, coordinateur du pôle, ayant été pressenti en qualité de maître d'apprentissage du futur apprenti, Monsieur Arnaud Grosset-Janin, dans le cadre de l'obtention d'un diplôme BTS Service informatique aux organisations, les activités principales de cet apprenti s'articuleront autour des activités relatives à son programme de formation. Ce contrat d'apprentissage s'étend sur 2 années et débutera en septembre 2015. Il s'effectuera en alternance avec l'établissement scolaire de l'étudiant, la collectivité et M. Arnaud Grosset-Janin. L'apprenti est rémunéré en pourcentage du SMIC en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Des suivis réguliers seront programmés entre le centre de formation et le maître d'apprentissage afin d'établir un suivi pour la réussite du projet de l'apprenti. Proposition, vous êtes invité à premièrement donner votre accord pour l'accueil d'un apprenti dans les conditions exposées ci-dessus, au sein du pôle CID en vue de la préparation du BTS Service informatique aux organisations. Deuxièmement, autoriser Madame le maire ou son représentant à accomplir toute formalité requise correspondante et à signer le contrat d'apprentissage entre la collectivité et l'apprenti bénéficiaire du dit contrat. Et troisièmement, prévoir les crédits nécessaires aux articles 6188 et 6417.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle ressources humaines, emploi et compétences, tableau des emplois permanents, Jocelyne Co.
Il est rappelé que les effectifs nécessaires au fonctionnement des services communaux font l'objet d'un état annexé au budget primitif voté par le Conseil municipal, tableau régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des besoins recensés, ainsi que des transformations résultant d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite à des concours, de nomination en qualité de stagiaire, ainsi que de tout recrutement en vue de pourvoir toute vacance de poste permanent. Vous êtes invité à modifier 7 postes, dont vous trouverez le détail dans le tableau qui est indiqué sur la délibération. Alors, sur les 3 premiers postes, le premier, c'est un changement d'intitulé de grade. Sur le deuxième, c'est l'intitulé du poste qui change, car nous avons beaucoup de difficultés à trouver un plombier. Donc, on va recruter un agent polyvalent. Et sur le troisième, c'est un changement d'affectation d'un agent qui passe du palais des sports au spa. Et les 4 suivants sont des changements de service. Ensuite, supprimer les 2 postes donc au 1er février 2015. Le premier, c'est un emploi qui avait été créé au sein du spa, qui n'avait pas été pourvu. Donc, à la reprise du spa par la commune, on le supprime. Et ensuite, l'autre, c'est à la suite d'un départ d'un agent. Et donc, il n'est pas remplacé. Troisièmement, modifier donc le poste de chauffeur engin TP et PL au 1er février 15, suite à la réussite à un concours de l'agent, donc qui passe d'adjoint technique deuxième classe à adjoint technique première classe. Donc en proposition, donc vous êtes invité à premièrement approuver les modifications de poste. Deuxièmement, autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'application de cette délibération et dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chapitre 012.
Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous avons terminé cette séance du Conseil municipal. Je vous rappelle les prochaines dates. Donc, le 17 février pour le débat d'orientation budgétaire et le 24 mars pour le vote du budget. Merci
Madame
et bonne
maire,
soirée.
Oui. On peut rajouter. Excusez-moi. Je tiens. Je
oui,
pense que
oui.
Le Conseil municipal remercie l'OHM pour le CD et ainsi que Monsieur Michel Gay qui nous l'a gracieusement donné.
Oui, vous avez tous sur votre table un CD souvenir du 29 juin 2014, 78e Festival des Musiques. 178e Festival des Musiques, pardon. Et je l'ai déjà vu, c'est un très très beau souvenir et c'est vrai que c'est bien de conserver ces souvenirs-là. Donc merci au comité d'organisation du Festival des Musiques et à l'OHM. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup.